L'heure de retrouver le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Emmanuel Macron promet de revoir en profondeur l'opération Sentinelle d'ici le mois d'octobre, alors que la ministre des Armées, Florence Parly, souhaite un maintien de cette opération, plus que jamais nécessaire selon elle, après l'attaque hier de militaires à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Un homme de 36 ans les a fauchés au volant de sa voiture, faisant 6 blessés. Cet Algérien en situation régulière a été arrêté en début d'après-midi à l'issue d'une course-poursuite. Sur le terrain, beaucoup de soldats de l'opération Sentinelle se sentent démunis. Thibault Lefèvre les a rencontrés.
3 ans dans l'armée et première mission Sentinelle pour le sergent Olivier. Pendant 2 mois, ce mécanicien de l'armée de l'air a patrouillé dans les aéroports parisiens, pas toujours serein.
Ça fait un peu peur, hein, mais c'est sûr qu'on n'est pas des super-héros non plus. Hein. Mais après, si je peux éviter de le montrer, c'est toujours mieux vis-à-vis de moi, de mes camarades et bien de la population. On n'est pas seul non plus. Je sais que j'ai mes 2 camarades qui veillent sur moi. Et vice-versa, si eux, ils ont un problème, je serai là pour eux.
Une solidarité et un risque qu'éprouve très régulièrement le caporal-chef Julien. Depuis le début de l'opération Sentinelle, il y a plus de 2 ans et demi, il a passé près d'un an à patrouiller dans les rues des villes françaises.
Je préfère que ça soit moi qui soigne ici plutôt que ce soit des personnes civiles ou des enfants. C'est un prix à payer, mais j'ai choisi de payer ce prix. Le plus usant, c'est surtout la répétition. Par exemple, lors d'un déploiement, c'est souvent les mêmes zones. On a l'impression de voir les mêmes rues, les mêmes bâtiments des centaines de fois, mais c'est comme ça, on est obligé.
Une usure des troupes qui devrait être prise en compte par le président de la République. Emmanuel Macron a en effet promis de repenser le dispositif Sentinelle d'ici octobre.
Thibault Lefèvre. La réserve parlementaire supprimée après l'adoption du 2e projet de loi sur la moralisation de la vie publique hier soir à l'Assemblée nationale. Les députés ont donc aboli cette enveloppe de 130 000 euros utilisée par les parlementaires, souvent perçue comme un instrument de clientélisme. Le Sénat, lui, était farouchement contre cette suppression et il ne décolère pas, Maïwenn Bordron.
Esther Benbassa, sénatrice écologiste du Val-de-Marne, dénonce une mesure drastique.
On aurait pu réorganiser l'attribution de la réserve parlementaire, mais la supprimer de cette façon-là, c'est vouloir laver plus blanc que blanc. Et vous savez, moi, je suis assez importunée par le fait que beaucoup d'associations vont disparaître. L'aide aux réfugiés, des associations qui s'occupaient d'alphabétisation, des associations s'occupant des femmes et les associations écologistes. La série est longue.
La sénatrice Europe Écologie Les Verts aurait préféré par exemple un contrôle renforcé sur les attributions avec la mise en place d'un jury ou d'évaluation. Pierre Charron, sénateur Les Républicains à Paris, estime lui qu'il n'y avait rien à changer au système, suffisamment transparent.
J'appelle les maires, je leur demande de quoi avez-vous besoin. Eh bien, monsieur le sénateur, on a besoin pour telle et telle association. Ensuite, je fais un tri pour ne pas dépenser plus que ce que j'ai et je donne à tous les arrondissements. On remplit un dossier ensemble, très dur, très long, qui va au ministère et 1 an après ou 8 mois après, la première subvention tombe. Ça se passe comme ça. C'est le petit coup de main, le petit coup de pouce qu'on peut donner à un budget très 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 restreint. C'est ça qui est injuste.
Maïwenn Bordron, le groupe Les Républicains souhaite déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour empêcher la disparition de la réserve parlementaire. Dans l'actualité internationale, la situation reste très instable au Kenya. Les affrontements ont fait 4 morts hier, alors que l'opposant Raila Odinga refuse de reconnaître les résultats non encore définitifs qui donnent le président sortant Kenyatta gagnant. On craint un retour au chaos post-électoral de 2007 qui avait fait près de 1200 morts. Les États-Unis prennent de nouvelles sanctions financières pour faire pression sur le Venezuela. Après les mesures infligées au président Nicolas Maduro, notamment le gel de ses comptes aux États-Unis et l'interdiction aux ressortissants américains de faire des affaires avec lui, Washington applique ces mêmes sanctions envers cette fois 8 responsables du régime impliqués dans la récente mise en place de l'Assemblée constituante. Parmi eux, un frère de l'ancien président Hugo Chavez. Mais ces mesures peuvent-elles réellement faire reculer Caracas? D'autres sanctions touchant l'économie vénézuélienne sont en préparation qui pourraient être plus efficaces, mais pourraient aussi aggraver encore le chaos économique et devenir contre-productives et renforcer le président Maduro, selon Alfredo Valadeon, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Amérique latine.
On parle déjà aux États-Unis, par exemple, de sanctions concernant les ventes de pétrole léger et de certains nombres de produits chimiques qui sont nécessaires aux raffineries vénézuéliennes pour raffiner le pétrole lourd vénézuélien. Donc là, ça pourrait faire mal, effectivement, parce que si les raffineries vénézuéliennes ne peuvent plus travailler, ça pose des problèmes pour l'approvisionnement énergétique interne du pays. Donc c'est sur cette partie-là, disons américaine, que pourrait peut-être avoir un moyen de pression sur le gouvernement. Mais les États-Unis n'ont pas intérêt non plus à être trop présents dans cette affaire, c'est-à-dire que ça pourrait en renforcer encore le gouvernement Maduro, qui pourrait tenter de jouer la carte anti-impérialiste, comme il le fait toujours, en disant « voilà, tout ça c'est la faute des Américains ». Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de la part des États-Unis cette volonté de faire une escalade qui le mettrait en porte-à-faux avec le reste d'Amérique latine sur ce genre d'argument. En plus, comme les grands pays d'Amérique latine commencent à prendre la tête de l'opposition à Maduro, appuient le Parlement démocratiquement élu, ne reconnaissent pas l'Assemblée constituante, etc., les Américains ont intérêt à laisser les Latino-Américains monter en première ligne.
Alfredo Valadeon répondait à Marie Vienno. Disney abandonne son partenariat avec la plateforme internet Netflix. Le géant américain vient d'annoncer qu'il change radicalement sa stratégie de diffusion pour ses dessins animés. Le divorce annoncé entre les deux mastodontes de l'audiovisuel mondialisé confirme une évolution beaucoup plus large des modes de diffusion de la vidéo en ligne, Camille Magnard.
Pour lancer sa propre plateforme de streaming, le groupe Disney vient de renforcer sa participation dans l'entreprise BAMTech, spécialisée justement dans l'offre payante de vidéos à la demande. Elle va inaugurer son nouveau service dès l'an prochain en proposant aux internautes les programmes sportifs en direct de sa chaîne câblée ESPN. Mais dès 2019, Disney donc retirera tous ses films d'animation de chez Netflix. Cette réorientation stratégique, elle est d'autant plus surprenante que le partenariat entre les deux sociétés avait été renforcé en encore l'an dernier, Netflix avait obtenu l'exclusivité de diffusion de tous les contenus du groupe Disney pour les États-Unis, à savoir les classiques Disney, mais aussi les productions Lucasfilm, les nouveaux Star Wars, Pixar, les blockbusters d'animation comme Toy Story ou Cars, et Marvel, l'écurie phare en matière de super-héros. Le divorce d'avec Disney est clairement une mauvaise nouvelle pour Netflix, qui a lancé ces derniers mois une grande offensive pour étoffer justement son catalogue de dessins animés. Netflix va devoir miser encore plus sur l'animation japonaise pour compenser. Mais la décision de Disney confirme surtout une évolution claire des modes de diffusion des vidéos. Les chaînes câblées payantes qui avaient fait la fortune de Disney ne rapportent plus. Les consommateurs sont désormais sur Internet. Le streaming s'est imposé comme le mode de visionnage numéro 1. Disney veut maîtriser la diffusion de ses contenus de A à Z, en retirer tous les bénéfices. C'est pour ça que le groupe ne voit plus Netflix comme un partenaire, mais désormais bien comme un concurrent.
Camille Magnard. Le temps, du soleil sur la Bretagne, la vallée du Rhône et au bord de la Méditerranée ce matin. De la grisaille partout ailleurs, température fraîche, 10 degrés à Dijon, 15 à Paris. Ce matin, cet après-midi, maximum 29 degrés sur la Côte d'Azur. Il est 9h08 sur France Culture. C'est la fin de cette édition préparée avec Moussa M. Le Chili et François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 12h30 avec Anne Fauquemberg.